Avec ce soir Ségolène Royal, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, ancienne ministre, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Rebonsoir Alain Duhamel.
Rebonsoir.
Et justement Emmanuel Macron à l'Élysée, c'est le thème ce soir d'un ligne rouge consacré à ce qui s'est passé à l'Élysée.
En fait, Emmanuel Macron, il ne veut pas de Premier ministre. C'est lui le Premier ministre. Emmanuel Macron, c'est un président presque à l'américaine qui pourrait incarner tous les sujets.
La tenue unique sera expérimentée dès cette année dans une centaine d'établissements.
Il y aura un prix minimum, un prix plancher.
Depuis hier, il y a déjà plus de 82 interpellations.
Finalement, il a toujours l'impression que le boulot est mieux fait quand il le fait lui-même que quand ce sont les autres qui s'en emparent.
C'est lui qui fait les annonces, c'est lui qui coupe l'herbe sous le pied de ses ministres, et y compris de ses premiers ministres.
J'invite les membres du Congrès à accueillir le président de la République.
Puisque dès le premier quinquennat, Édouard Philippe, censé présenter la feuille de route de son gouvernement, ce qu'on appelle la déclaration de politique générale, exercice rituel pour tous les chefs de gouvernement, eh bien, découvre qu'à la veille de ce rendez-vous, Emmanuel Macron a décidé de convoquer l'ensemble des parlementaires, les sénateurs et les députés pour leur décliner cette feuille de route.
Les réformes et ces transformations profondes auxquelles je me suis engagé seront conduites.
Alors, ce sera à suivre à partir de ce soir 19h45. 7 ans de bonheur, 7 ans de malheur. Que dire à Alain Duhamel ?
Emmanuel Macron, c'est un réformateur contrarié, donc impopulaire. C'est un président de crise. C'est un Européen audacieux. C'est quelqu'un qui, en matière de défense, a réellement réveillé notre système. C'est quelqu'un qui, en matière social ne fait pas de cadeaux. C'est quelqu'un qui, en matière économique, est un partisan résolu de la politique de l'offre. C'est la première cible de France. Et comme il crée en permanence un sentiment d'inégalité, c'est une cible sur laquelle il y a énormément de flèches qui atteignent leur but.
Alors, 7 ans de bonheur ou 7 ans de malheur ? Même question.
Alors, j'ai envie de retourner la question, c'est de se dire, mais qu'est-ce que les Français se posent comme question aujourd'hui ? Ils se disent, qu'est-ce qui nous attend pour les 3 ans qui viennent ? C'est ça la question aujourd'hui. Et moi, je pense que le temps de la résilience est venu. C'est-à-dire qu'on est une société qui a connu beaucoup de chocs, à la fois des chocs venus de l'extérieur, comme le Covid, les guerres, le dérèglement climatique, même si on est aussi en partie responsable, comme chaque pays, et puis des chocs internes, comme les gilets jaunes, les révoltes sociales, le choc de la réforme des retraites, le choc des réformes territoriales. Et donc, je pense que le moment est venu de retrouver, c'est quoi la résilience ? C'est comment est-ce qu'on retrouve un équilibre ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on se remet de ces chocs pour être à nouveau, être en mesure d'imaginer un avenir serein et d'avoir une perspective. Et finalement, c'est la belle phrase de Jean Jaurès, comprendre le réel et aller à l'idéal. Et ce que les gens veulent savoir aujourd'hui, c'est quel est l'idéal pour les 3 ans qui viennent et comment est-ce qu'on se...
Emmanuel Macron, ne le fixe pas, cet idéal ?
C'est ce qu'il faut voir aujourd'hui. Je crois que dans ce qu'il a dit, il y a une part d'autocritique. J'ai vu, ça c'est toujours bien d'ailleurs.
Dans les colonnes de la tribune.
Oui, et le reste, il a décliné un certain nombre de thèmes. Et ces thèmes ne sont que des outils, au fond. C'est quelle est notre perspective commune.
Il a dit le plein emploi, le réarmement du système éducatif et de la santé, la transition écologique. C'est ce qu'il a dit dans l'interview de la tribune.
Bon, aujourd'hui, on est dans le second mandat et on est dans le début de la huitième année. On sait très bien que de toute façon, les seconds mandats, tous, sont plus difficiles que les premiers. C'était vrai pour le général de Gaulle, c'était vrai pour François Mitterrand, c'était vrai pour Jacques Chirac, et ça sera vrai, et c'est vrai, et ça sera vrai pour Emmanuel Macron, parce qu'il n'y a plus de surprises, il n'y a plus de découvertes, il y a en général beaucoup moins d'espérance. Il y a plus de ressentiment.
Il y a une majorité relative.
Il y a une majorité relative, mais qui est la conséquence du ressentiment. Donc, il sera contesté jusqu'au bout. Il sera une cible jusqu'au bout. C'est inévitable. Je dis pas que ça fait partie de sa stratégie, mais c'est un registre qu'il endosse. Il le sait bien Il dérange, il innove, quelquefois en bien, quelquefois en moins bien. Bon, j'étais très content de lire dans la Tribune qu'il était d'accord avec moi au moins sur un point, c'est que la réforme des retraites qu'il a faite, c'était pas la bonne, et que la bonne, c'était la réforme par point. Oui, là, c'est ce que j'ai seriné avec vous pendant un an.
C'est vrai.
Et c'est bien de reconnaître des choses comme ça. Bon, y a des domaines dans lesquels il a vraiment marqué des points. Ça a été vrai en matière européenne, c'est vrai en matière militaire, ça a été vrai en matière économique, je ne dis pas budgétaire, ça n'est pas vrai en matière sociale, ça n'est pas vrai en matière politique non plus. C'est pas un politique. C'est en politique, au bout de 7 ans, ça reste toujours un amateur.
Ah bon ?
Mais oui, enfin à mes yeux. Et ça n'est pas non plus un orateur politique. Ses bons discours, ce sont les discours qu'il prononce, ce sont ses oraisons funèbres. Voilà.
Ah bon, commémorations.
Ça, il les fait très bien. Il en fait beaucoup, il les fait très bien. Ces grands discours, d'abord, ils sont beaucoup trop longs, et ensuite, on n'en comprend qu'une petite partie, ce qui est quand même pas l'objectif.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif quand même dans ces 7 ans, Ségolène Royal ?
Quand il dit, par exemple, réarmer les services publics, ça, c'est une bonne détermination pour les 3 années qui viennent, parce que les Français ont le sentiment que les services publics ont été justement désarmés. Mais la situation du pays, elle est assez simple. D'ailleurs, Emmanuel Macron en a parfois fait le constat sans toujours en tirer les conséquences. Donc, la question, comme dit Alain, puisqu'il est... ne peut pas être à nouveau candidat, est-ce qu'il prendra suffisamment de liberté pour répondre à la crise de la société française, qui est assez simple. On a des secteurs qui vont très très bien, ceux du CAC 40, l'énergie, le luxe, les banques, les assurances, etc., la grande distribution et l'agroalimentaire. On a en bas une France qui décroche, notamment la France des périphéries, avec la disparition des identités rurales et la crise des éleveurs. Et puis au milieu, on a les catégories intermédiaires qui ont un sentiment de déclassement. Et ce sentiment de déclassement, il se répercute sur la jeunesse. Et moi, je crois que l'essentiel aujourd'hui pour les 3 ans qui viennent, c'est de redonner une espérance à la jeunesse qui est à la fois confrontée à la disparition des services publics. Aujourd'hui, tous les jeunes vous disent, nous, on n'aura pas de retraite, comment on va se débrouiller ? Et ça a des conséquences très importantes, et en particulier sur la natalité. Car l'indice de baisse de la natalité, pour moi, c'est quelque chose d'inquiétant. Ça peut être un libre choix, mais c'est aussi une crise de confiance des jeunes qui ne savent pas de quoi demain sera fait.
C'est aussi un phénomène occidental. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas propre à notre système. D'ailleurs, chez nous, ça baisse proportionnellement moins que chez les autres.
Non, parce que la France avait un modèle exceptionnel qui concilie à la fois le taux d'activité féminin le plus élevé et le taux de natalité le plus élevé. Donc la baisse en France est beaucoup plus grave, puisqu'on passe au niveau des autres alors qu'on était au-dessus. Deuxième crise auquel sont confrontés les jeunes, c'est la crise climatique. Et en prenant appui sur la crise climatique, il y a un moyen de reconstruire là aussi un objectif et un idéal et un horizon enthousiasmant. Parce qu'on voit que toutes ces crises interagissent les unes avec les autres. Et si on règle la crise climatique, on règle aussi la crise énergétique, ou la crise de la santé, ou la crise alimentaire, vous voyez. Donc c'est ça que j'attends des prochaines années.
Je sais que c'est votre thèse depuis longtemps, y compris depuis quand vous étiez ministre chargé de l'écologie. Je pense que les jeunes ont parfaitement raison de considérer que la question de la transition écologique, ça, à leur génération, ça va être la question numéro 1.
Aujourd'hui, d'ailleurs.
Oui, mais à leur génération, ça prendra des proportions, forcément. Cela étant, de là à ce que ça devienne un motif d'espérance, que ça soit un motif de combat, ça je le conçois tout à fait, un motif d'espérance, on n'en est pas là du tout, parce que c'est évident que de toute façon, la transition écologique, ça va passer par des efforts, des difficultés, des risques de régression, et on le voit déjà d'ailleurs, on le voit déjà. Mais pour le reste, les 3 ans, puisqu'on parle des 3 ans qui y demeurent, pour le reste, les 3 ans, on va continuer inévitablement à être en période de crise. On va pas sortir de la crise de l'Ukraine comme ça, et on ne sait pas ce que seront ses conséquences, et j'espère pas son extension, mais on ne sait pas. Bon, on sait qu'en matière écologique, ça ne peut être que difficile. En matière économique, on peut espérer que ça s'améliorera progressivement, mais on n'en a certainement pas la certitude. Et compte tenu de la configuration politique, ça va être impossible pendant les 3 ans qui viennent
de
recréer une majorité positive. Et,
je suis pas d'accord.
Et le risque, évidemment, c'est que, le bénéficiaire de tout ça, ce soit évidemment des élections, dès les élections européennes, mais aussi pour la suite, le Rassemblement national.
C'est bien royal.
Non, je suis pas d'accord.
C'est pas la gauche qui en profite, c'est vrai que c'est le Rassemblement national.
Ah oui, mais de toute façon, la division de la gauche.
Mais la gauche pourrait profiter.
Elle peut pas profiter puisqu'elle n'est pas responsable, elle n'est pas capable de faire le rassemblement. Mais moi, je crois pas du tout, au contraire, qu'il faut se résoudre à la crise. Pourquoi?
Mais j'ai pas dit qu'il fallait se résoudre.
Non, mais en disant que c'est la crise, c'est la crise. Non. Je pense, au contraire, qu'il y a des leviers d'action très puissants. Par exemple, les secteurs que j'évoquais tout à l'heure qui sont florissants. Donc, la question centrale économique, c'est comment est-ce que ces secteurs florissants entraînent la société tout entière? Puisqu'on voit bien que la théorie du ruissellement du début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron n'a pas fonctionné.
Il s'est fracassé contre les
aujourd'hui,
crises.
Aujourd'hui, dans ce qu'il dit, réarmer les services publics, je pense qu'il a compris que le ruissellement ne fonctionnait pas. Et donc la question, c'est comment on réorganise les filières économiques, et notamment autour de la priorité de la croissance verte. Moi, j'y crois beaucoup, parce que regardez, même dans les débats qui ont lieu avec la Chine, si on y avait cru plus tôt, hein, si on avait fait la voiture électrique il y a 20 ans, comme on l'avait inventé en France il y a 20 ans dans l'entreprise Eliès, on n'en serait pas là. On serait, en effet, dominant sur le plan industriel. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien
mais
faire.
Je vous dis,
les panneaux
je vous
solaires,
dis pas...
les premières batteries solaires ont été fabriquées en France.
Ben pourquoi, alors, pourquoi on manque d'audace? Enfin, on crée,
parce que ça manque d'audace.
On s'est créé, mais ensuite, on manque
ça
d'audace.
Ça manque de constance, ça manque d'audace, ça manque de continuité. Chaque ministre qui vient, en général, démolit ce qu'a fait le précédent. Je vais vous citer un exemple. Au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, moi j'ai continué à travailler sur la COP21, il m'avait demandé de l'aider sur l'Alliance solaire internationale. Donc je sais qu'il y croit à ses stratégies industrielles. Donc nous avons monté l'Alliance solaire internationale, nous sommes allés en Inde, et la France et l'Inde ont créé cette Alliance solaire internationale qui devait, à partir d'une idée simple, c'est rassembler tous les projets du monde sur la question de l'énergie solaire, ça va faire baisser les prix et on va développer des filières industrielles cohérentes. Eh ben, le ministre a changé, donc ça s'est écroulé, ça s'est effondré, etc. Donc, je pense que
Donc ça va être très difficile.
Oui, mais il faut garder
mais je vous dis pas qu'il faut se croiser les bras, que je vous dis pas qu'il faut être résigné, je vous dis pas qu'il faut être défaitiste, mais je pense qu'il faut aussi être lucide et que on va avoir 3 années pendant lesquelles il y aura
3 années inutiles.
Non, je dis pas inutile, parce que
compliqué.
Même quand il y a des crises, ça veut dire quelque chose et il en sort aussi quelque chose. Mais on a une situation politique qui est soit inextricable, soit angoissante, qui ne facilite pas les décisions audacieuses ou les réformes auxquelles on peut croire. Et en ce qui concerne l'écologie, qui va être le problème numéro un, ça, je suis bien d'accord que ça va être le problème numéro un.
C'est un problème et une solution.
Non, mais...
C'est
alors,
un problème et une solution.
Alors, le problème, attendez,
non,
le problème est, chacun son point de vue, évidemment, le problème est une certitude et la solution risque d'être difficile à vivre. Indispensable, mais difficile à vivre. Mais ça va passer forcément par des remises en cause, y compris du mode de vie, et tout le monde ne sera pas heureux de ça.
Puisque vous parlez de remise en cause.
Le cœur du sujet, c'est l'économie d'énergie et c'est les énergies renouvelables, donc c'est positif.
Bien sûr, mais.
Il faut mettre
les énergies renouvelables. C'est positif, mais tout le monde,
les énergies gagnent beaucoup d'argent.
La France n'est pas la plus mal placée. Dans ce domaine.
Non, mais
il y a un retard général.
Oui.
C'est pas vous qui allez me dire le contraire.
Vous savez que l'année prochaine, c'est les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat.
Oui, oui. On est encore loin des objectifs.
10 ans qui
entre-temps
réévalués. Mais comme il y a de l'argent dans le secteur énergétique, il y a donc des moyens financiers, contrairement à ce qu'on dit, pour investir dans les économies d'énergie, dans les énergies renouvelables.
Mais puisqu'on parle de remise en cause, peut-être que la première personne à devoir se remettre en cause pour les 3 ans à venir, c'est Emmanuel Macron, qui a été élu sur la promesse due en même temps de faire avec le mieux à droite, le mieux à gauche. Finalement, c'est plus trop où il est aujourd'hui, Emmanuel Macron. Pour vous, il est à droite, il est à gauche, Emmanuel Macron.
Est-ce que c'est la question prioritaire?
S'il veut entraîner les Français aussi.
La question prioritaire, c'est celle que je vous ai
donnée. Il est quand même dans une phase de rejet,
donc
c'est compliqué pour les 3 ans à venir.
Ce qui est clair, c'est que la redistribution n'a pas été suffisante. Mais il ne faut pas la faire de façon punitive. Ce qui est clair, c'est que c'est faux de dire qu'on manque de moyens. Ce qui est clair, c'est qu'il faut arrêter de faire peur aux gens. Et donc, si on arrive à remobiliser les énergies en donnant le sentiment aux gens que les efforts sont équitablement répartis et que tout ce qui est fait est fait pour reconstruire une espérance pour la jeune génération, alors, je pense que tout le monde se peut retrouver dans une union
autour de ça. Que reste-t-il, Alain, du en même temps ? Je reprends la question d'Alain. Que reste-t-il du en même temps ? L'idée de faire travailler les gens raisonnables à gauche et les gens raisonnables à droite.
Il en reste une majorité relative. Il en reste une fraction de la population qui diminue.
Donc c'est un échec.
Ça ne veut pas dire que les réformes vont s'arrêter et ça ne veut pas dire que tout est inutile en matière européenne.
Il y a pas eu un virage à droite dans ce deuxième quinquennat.
Le deuxième quinquennat est plus à droite que le premier, c'est une évidence. Aussi parce que les crises ont imposé des répliques économiques qui ne pouvaient être que des régressions et pas des progressions. Au début du premier quinquennat. Sur le plan économique, les réformes se sont accompagnées de progrès économiques, de résultats qui ont été positifs. La fin a été évidemment complètement obturée
par le Covid,
puis par malheureusement la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, la marge est très difficile dans la mesure où il n'y a pas de majorité politique. S'il y en a une qui se définit, qui émerge, ça sera une majorité d'extrême droite. Et ça ne sont pas les meilleures conditions pour créer ni de l'équité, ni du développement, ni de la satisfaction, ni de l'espérance.
Merci Ségolène Royal, merci Alain Guéret.
Et à bon les services publics, retenons ça.